Marc Craquelin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de gestion d'actifs à la financière de l'Échiquier. On va parler avec vous de marché de perspectives. Comment vous envisagez-vous ce qui se passe aux États-Unis? On a eu un certain nombre de chiffres plutôt favorables sur l'emploi. En même temps, il y a toujours ce débat sur cette croissance américaine. Votre vision à vous de cette économie américaine?
Le marché américain, effectivement, il y a quand même beaucoup de bons éléments. Vous avez cité le chômage, il y a les taux de capacité d'utilisation, enfin, il y a des indices de grande solidité. En même temps, c'est un marché qui déçoit un petit peu. On l'a vu par exemple avec les chiffres de la consommation la semaine dernière, mais il déçoit aussi parce que les attentes sont évidemment plus élevées. Ce qu'il y a, c'est qu'après, les impacts sur les marchés, c'est toujours pareil, quand les attentes sont élevées et quand elles sont déçues, les gens s'interrogent un peu plus. Cela étant, si on était dans un monde normal, entre guillemets, c'est vrai qu'on serait déjà dans une période de normalisation de politique monétaire. Encore une fois, le chômage, les taux de capacité d'utilisation vont en ce sens. Donc c'est clair. Ce qui rend l'exercice de prévision encore peut-être plus difficile sur cette politique de taux, c'est le niveau du pétrole qui effectivement reste très bas et du coup modifie les anticipations d'inflation. Et puis c'est la devise, l'euro-dollar, qui fait qu'on va attendre les annonces de Mme Yellen avec particulièrement une impatience particulière.
Justement là-dessus, ça reste la clé, mais comme en Europe aussi, bien sûr, c'est politique monétaire, mais on va dire on est obligé quand même d'investir. Donc on arrive à suivre ou on est contraint finalement, on est un peu sous contrainte.
Alors, on est un peu sous contrainte dans la mesure où les politiques monétaires faussent le prix des actifs, c'est quand même une réalité. Après, c'est vrai que cette année sur l'Europe, on était beaucoup plus positif pour plusieurs raisons. D'abord, il y avait deux effets heureux et un peu inespérés, qui étaient la baisse du pétrole, d'une part, qui était la forte baisse de la devise, qui s'est accélérée depuis le début de l'année, mais qui était déjà présente dans la fin de l'année dernière, qui faisait qu'on se disait cette année, pour l'Europe, indépendamment du QI, il y a déjà deux phénomènes qui poussent très fort. Et puis, entre-temps, il y a eu le QI qui fait évidemment la troisième force. Donc, c'est vrai qu'on se disait que cette année en Europe, il y avait un contexte un peu particulier avec pas mal d'alignements de planètes, pour reprendre une expression qui a été beaucoup citée ces derniers jours. Donc oui, c'est un peu contraint parce que oui, la politique de QI, c'est une donnée extérieure qui, encore une fois, modifie le prix des actifs. Mais malgré tout, comme vous le dites, il faut faire quelque chose. Et c'est vrai qu'il y a un cas très positif pour l'Europe, donc autant le jouer.
Alors on a vu des flux, bien sûr. Parler donc d'États-Unis vers l'Europe. En même temps, pour les Américains qui auraient fait ce parcours-là, finalement, avec l'effet devise, ils sont peut-être autour de 3%, donc c'est pas si terrible que ça.
Oui, c'est moins spectaculaire. Alors, cela étant, beaucoup ont couvert. Je crois qu'il y a une partie des actifs qui couvrent la devise. On voit d'ailleurs se développer des ETF couverts, comme il y a eu d'ailleurs au Japon. En fait, les boursiers, ils aiment bien se ramener à des situations connues. Le marché japonais a eu un très très fort rallye lorsqu'il a enclenché sa politique de quantitative easing. Les gens ont fait un peu le parallèle en Europe, et c'est vrai que le rallye est quand même très spectaculaire depuis le début de l'année, avec, comme vous le dites, se souvenir quand même que l'essentiel est dû à une baisse de la devise. Ce qu'on vit aujourd'hui, c'est ce qu'on appelait autrefois une dévaluation de la devise. Donc il faut relativiser ça, mais c'est vrai que malgré tout, pour la première fois en Europe, vous avez des attentes sur les chiffres qui sont remontées, et c'est très nouveau. Depuis 3-4 ans, les gens, si je puis dire, attendaient toujours trop du PIB, attendaient trop de la croissance en Europe. Là, pour la première fois, l'effet de surprise part dans l'autre sens, ce qu'a souligné M. Draghi lors de sa dernière intervention, quand il a remonté les attentes de PIB de 1 à 1,5.
Alors, on voit parfois tout de même des articles assez alarmistes sur cette guerre d'échange et finalement, en parlant de prochains risques qui seraient liés à cette guerre. C'est vrai que ça s'est amplifié, on va dire, quand on voit cette évolution de l'euro-dollar. Ça s'est amplifié, on voit des parités qui arrivent. C'est pas forcément un contexte très favorable. Alors, ça peut amener de la volatilité. Quelles sont les conséquences de ça?
Oui, c'est vrai que c'est compliqué. Alors, en plus, là, ça a été un peu à tour de rôle, finalement. Les États-Unis ont commencé avec le quantitative easing, puis il y a eu le Japon, puis il y a eu l'Europe, et chacun, à tour de rôle, a fait baisser sa devise. Et on sent bien qu'il ne faut pas être le dindon de la farce. C'est-à-dire que si vous êtes le seul à ne pas le faire, vous vous retrouvez avec une économie un peu ralentie et puis une devise trop forte. Donc, c'est vrai que c'est compliqué. Encore une fois, il faut faire avec, c'est-à-dire que après tout, on sait que c'est un facteur très puissant pour refaire de la valorisation d'actifs. Donc il faut entre guillemets jouer avec, même si à terme c'est évidemment une source de volatilité. Et puis aujourd'hui, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les cycles économiques sont plus décalés qu'avant. C'est-à-dire que là, on est dans très amorcé dans le cycle aux États-Unis, alors qu'a priori, on commence à peine à reprendre en Europe. Et c'est ce qui est assez nouveau. Autrefois, je pense qu'on était un peu plus synchrone.
Mmh. On a eu quand même dans le passé, alors c'était pour les boursiers, la Bouba, la Bundesbank, qui n'était pas sur la même longueur d'onde que la Réserve fédérale américaine, qui elle était déjà là, effectivement, à la manœuvre. Ça n'a pas été très bon pour les marchés. Enfin, ceux qui s'en souviennent à l'époque, ça a été violent.
Oui, alors il y a eu des périodes, comme vous le soulignez, où ça décorrèle hein, entre les deux. De toute façon, on le voit bien, aujourd'hui, on sent qu'il y a une force très puissante haussière en Europe due à la politique du QE, et les gens ont plutôt envie aux États-Unis de prendre leurs bénéfices, parce que 6 ans de bull market, 6 ans de hausse de marché, on sait bien que historiquement, c'est un peu la longueur classique des cycles. Donc on sent bien qu'il y a il y a des forces très antinomiques. Mais encore une fois, si vous aviez fait le même raisonnement sur le Japon, bah vous ratiez le formidable rallye du Nikkei au moment où, qui continue d'ailleurs, mais qui a été très, évidemment très poussé par la politique de la Banque centrale. Donc on vit dans un monde un peu normal. Encore une fois, le prix des actifs dépend beaucoup des politiques des banques centrales, donc il faut l'intégrer.
Alors un sujet aussi peut-être de préoccupation, c'est la Chine avec des chiffres un peu moins bons. On commence là aussi à avoir des articles disant finalement il n'y a plus de certitude sur la Chine.
Oui, c'est-à-dire que la Chine, alors il y a deux choses. D'abord, pendant une dizaine d'années, la Chine a cru à peu près 10% par an, un chiffre rond. Alors il faut savoir que 10% à l'époque, sur le PIB de l'époque, ça faisait beaucoup moins que 7 aujourd'hui. Hein, mais c'est vrai que c'était un taux de croissance de toute façon intenable compte tenu de la taille de l'économie. Aujourd'hui, alors ce qui est nouveau, c'est que je pense qu'aujourd'hui, les autorités monétaires chinoises n'ont plus que ce target en tête. C'est-à-dire qu'il y a d'autres éléments qui interviennent et d'une certaine façon, ils revoient un peu leurs prétentions sur le taux de croissance. C'est ce qui a été redit récemment. Après, il y a d'autres problèmes en Chine. On sait qu'il y a un niveau d'endettement qui est élevé. Il y a le niveau des subprimes, qui était déjà d'ailleurs une crainte très forte dans le marché l'an dernier. Et puis, il y a ce que les autorités chinoises appellent le « new normal », donc cette volonté de transformer en profondeur l'économie, de la faire plus dépendante de la consommation intérieure. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent en Chine. Et il faut quand même reconnaître que jusqu'à présent, les autorités chinoises, et notamment monétaires, le pilotent avec plutôt une grande habileté.
Le mot de la fin, donc, vous restez en faveur des actions sur la période, là ?
Alors, on a écrété un tout petit peu parce que les 18 ou 20% sont allés très très vite. Cela étant, moi je garde le biais positif sur l'Europe. Encore une fois, la taille de ce qui a été engagé par M. Draghi, c'est très significatif. On achète plus de 2,5 fois les émissions nettes de bonds par an. Donc c'est très fort. Donc du coup, on garde le biais positif sur l'Europe. Et c'est vrai que parmi les points de vigilance, on regarde de très près le niveau du 10 ans américain. On sait bien que quand les taux remontent fort sur la partie longue de la courbe, généralement, c'est source de prise de bénéfices.
Eh bien, on suivra ça. Merci Marc Craquelin d'avoir été avec nous.
Merci.